Vous savez que vous avez un problème de comportement.
Oui, mais un tout petit problème.
Marceau le midi, avec Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
11h59. On est Marceau le midi, on vous accompagne jusqu'à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là, vous voulez nous rejoindre, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Si vous avez des choses à nous dire, ou encore il se passe quelque chose sur la route.
Ouais, puis il y a quelque chose qui vient tout juste de se terminer dans les dernières secondes via le Québec 5-1. Robert Clich en direction nord entre l'autoroute 20 et le pont Pierre-Laporte, la voie de gauche qui était bloquée en raison de perte de chargement. Le ministère des Transports qui était sur place, c'est encore hyper lourd là, si vous voulez prendre le pont Pierre-Laporte pour traverser vers Québec de toutes les autoroutes finalement, là. Mais ça va être de mieux en mieux dans les prochaines minutes car ça vient de se terminer. Mais si vous êtes capable d'éviter, je vous le conseille. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-102.
Merci beaucoup. Je l'appelle l'oracle, ça va bien le faire rire. Là. C'est quelqu'un qui nous met de la lumière des fois où on est dans le brouillard, surtout quand il s'agit des élections américaines. Son nom, c'est Donald Cocholetta, qui est expert en politique américaine, qui est ancien prof à l'Université du Québec à Montréal et membre de la chaire Raoul d'Endurant. Monsieur l'oracle, bon midi, merci d'être là.
Bonjour, bonjour.
Pourquoi les Américains ont fait ça si compliqué, la politique américaine, surtout quand c'est le temps des élections?
C'est tout le système lui-même. Hein. Si vous lisez la Constitution, vous n'avez pour plusieurs mois pour le comprendre, puis même des années. Il y a même des gens qui sont des spécialistes de la Constitution américaine ont beaucoup de misère même à les interpréter.
Ouais.
Parce que la Constitution américaine, il y a simplement 7 articles, puis si on regarde véritablement, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas tellement long, cette Constitution-là. Donc, on lit surtout entre les lignes. Fait qu'on interprète en fonction de ce qui se passe entre les lignes de la Constitution. Et c'est pour ça qu'effectivement, on arrive à des situations comme on voit présentement, mais dans toute l'histoire américaine, il y a eu des situations similaires, puis très difficiles aussi.
Y ont-tu déjà pensé simplifier ça?
Comment? J'ai mal entendu.
Est-ce qu'ils ont déjà pensé simplifier ça, leur façon de faire?
Bon, il y a les amendements de la Constitution, donc
ouais.
Ils peuvent les changer aussi, mais ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas changé les amendements, qu'ils ont travaillé sur les amendements. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, mais disons que pour l'instant, on n'est pas pris avec ça. On ne regarde pas encore, comme tu dis, comme vous dites, de changer un peu les certains articles. Ça veut dire qu'arriver vers les amendements et tout ça, on n'est pas là encore. Et surtout là qu'on est pris avec une élection qui est vraiment comme du jamais vu hein, dans l'histoire américaine. Fait que les gens se préoccupent de ça, les juges s'occupent de ça. Tous les politiciens s'occupent de ça, les politiciennes aussi. Fait que finalement, on est pris par quelque chose que. Puis après, peut-être on le regarderait, mais c'est difficile. Il faut être capable de convaincre les gens de commencer à regarder un peu la Constitution puis voir changer au niveau des amendements quelque chose de mieux, à améliorer les choses, etc., etc. C'est pas quelque chose de très facile aux
ouais.
États-Unis.
Vous parlez de cette élection-là qui est carrément hallucinante. Est-ce que vous pensiez voir ça durant votre carrière? Toutes les partis
jamais.
Impliqués.
C'est la première
jamais.
Fois que je vois comme ça.
Ouais.
Surtout que là, maintenant, je pense qu'on peut dire, si M. Biden maintient toujours qu'il soit là, parce qu'avec les derniers sondages, ça va pas bien pour M. Biden, mais néanmoins, s'il reste là, ça veut dire que Donald Trump, à date, si on regarde les sondages, puis on regarde aussi les primaires, puis surtout les primaires demain de Super Tuesday, c'est qu'on est retourné à 2000, on est retourné à l'élection de 2020. Là. C'est back to the future, c'est retourné à la future. Donc, on va retourner à une élection qu'on a déjà vue puis qu'on va revoir entre Joe Biden, qui maintenant est le président, pour un deuxième mandat, puis Donald Trump, qui veut retourner à la présidence des États-Unis.
Puis je veux pas
ça,
faire...
Ça s'est jamais vu, ça fait longtemps. Puis avec tout ce qui se passe avec M. Trump, avec tout ce qui se passe avec M. Biden présentement...
Ouais.
En voulez-vous des complications? Il y en a plein.
Il y en a plein, puis on veut pas faire d'âgisme, là, mais tu sais, n'en demande pas moins qu'il faut se poser des questions autant sur Trump que sur Biden. Biden, quand on voit des images de lui qui ne sont pas des images provenant des médias, mais plutôt des gens qui l'ont filmé, qui ont filmé son arrivée avec des téléphones cellulaires, on voit qu'il a de l'air vraiment mêlé, puis pas à peu près.
Ah oui.
Puis pour ce qui est de Trump, encore dans les dernières heures, s'est trompé de nom une couple de fois.
Absolument.
Ça commence à être compliqué.
Moi, je pensais que quand les démocrates avaient choisi M. Biden, la première fois, j'ai dit, bon, OK, un mandat, ça va. Mais quand j'ai vu qu'il revenait encore pour dire, non, je vais me présenter pour un deuxième mandat, j'ai dit, oh, non, ça se peut pas.
Comment on
Et en même temps, parce que moi, si les démocrates avaient vraiment changé leur position pour le deuxième mandat de M. Biden, puis choisir quelqu'un d'autre, peut-être ça aurait forcé les républicains de dire à Donald Trump, ben, on n'a plus besoin de toi non plus. Vous comprenez? Là, le fait que M. Biden revient, ça a donné un peu un coup de pouce à Donald Trump qui veut battre M. Biden absolument parce qu'il dit que M. Biden, l'élection de 2020, c'est un vol. Hein? Donc, il en parle encore d'ailleurs. Fait que vous voyez, on est encore pris avec des choses comme ça qui finalement, on peut pas dire l'élection avance, puis ni la démocratie américaine n'avance pas non plus dans ce cas-là.
J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que Joe Biden lui-même décide pas de laisser faire parce qu'il pourrait peut-être voir que ça nuit finalement aux démocrates, sa présence, puis son image à l'international. Pourquoi est-ce qu'il prend pas la décision?
C'est la question qu'on doit se poser. Moi, je retourne à ceux qui dirigent le Parti démocrate, puis surtout ceux qui contrôlent le Parti démocrate. Pour ça, c'est deux choses qu'on parle. La direction du Parti démocrate avait choisi M. Biden, puis ils ont maintenu encore M. Biden pour le deuxième mandat. Mais qu'est-ce qui est encore plus important, c'est qu'on sait qui contrôle le Parti démocrate. Puis le Parti démocrate est contrôlé, oui, par les Clinton. Hillary Clinton, puis son mari. Hein? Donc, ces gens-là sont très proches de M. Biden, puis ils voulaient absolument qu'il y ait un deuxième mandat. Ça veut dire qu'ils ont un rôle à jouer, puis ils jouent un rôle déjà au niveau de sa politique, de son de sa présence, etc., etc. Donc, ce côté-là, on peut dire que c'est un entre démocrate, le Parti démocrate, et ceux qui contrôlent le Parti démocrate, et c'est eux qui ont décidé que ce soit encore M. Biden. Il faut pas oublier que les démocrates de l'extérieur du parti avait déjà vu un nouveau candidat. C'était le gouverneur de l'État de la Californie, qui s'appelle Gavin Newsom, qui est dans son deuxième mandat présentement, puis quelqu'un qui a 54 ans aujourd'hui. Ça veut dire que s'il s'était présenté en 2024, bien écoutez, il est là pour 8 ans, c'est sûr. C'est quelqu'un qui est très apprécié par les démocrates et même par certains conservateurs républicains modérés. Imaginez-vous, là. Fait que ça a été beaucoup plus solide, puis probablement ça aura forcé. Si les démocrates ont dit oui pour Gavin Newsom, ça a forcé encore, puis je répète, que le parti républicain aurait dit à M. Trump, nous aussi, on va chercher quelqu'un de nouveau aussi. Et donc, on aurait vu quelque chose un peu différent. Puis ça a touché effectivement la population américaine, que lui, il est prêt à voter, mais il garde les deux en poste, puis ils disent, oh non, pas ces deux-là. C'est ça la question. Mais ces gens-là, ils étaient prêts à voter pour quelque chose de tout à fait nouveau. Mais là, il semble qu'on est retourné au passé, comme les Américains vont dire « back to the future ». C'est exactement ce qu'on a. Et donc, est-ce que ça va avancer la politique américaine? Est-ce que ça va avancer la démocratie américaine? Est-ce que ça va interpeller les gens qui vivent aux États-Unis, qui veulent du changement? Puis on sait que ça va pas bien aux États-Unis. Donc, tout ça, effectivement, à cause qu'on est encore au prix avec deux personnes qui s'étaient déjà présentées en 2020, puis là, ils reviennent en 2024.
Donald Cucciolletta, vous êtes un observateur de la politique américaine. À quoi on peut s'attendre des débats entre Trump et Biden? Ça va être une catastrophe.
Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ça, en tout cas. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous rappelle, à la dernière fois, bon, évidemment, c'était des engueulades et tout ça, mais sachant très bien, comme vous avez dit au tout début, que M. Biden a des problèmes au niveau de, finalement, de se faire comprendre. Parfois, il trébuche dans les... Puis la même chose pour Donald Trump, imaginez-vous. Fait qu'on vit dans une situation où est-ce que... C'est catastrophique pour moi, pour la société américaine et vraiment l'avancement des États-Unis, parce que les États-Unis ont plusieurs, pas juste des problèmes à l'extérieur, mais des problèmes internes aussi. La pauvreté augmente aux États-Unis, la classe moyenne est en train de se rétrécir aux États-Unis, les gens ont de la misère à payer des loyers, ont de la misère à s'acheter des maisons, ont de la misère à payer les universités pour leurs enfants, etc. Ça va pas bien aux États-Unis. Puis quand M. Biden dit « tout va bien », non, c'est pas vrai, pas du tout. Donc, on aurait voulu quelque chose de différent. Fait que là, on va être pris encore avec des débats, des engueulades. Ça va être un peu le retour comme on a vu dans le passé, puis ça n'a pas changé. Et ne soyez pas surpris, si les gens, particulièrement, d'ailleurs, un sondage indique clairement, il y a même plusieurs démocrates qui n'iront pas même voter à la présidentielle. Imaginez-vous. Donc,
mais ça, ça va faire monter le vote pour Donald Trump aussi.
Bien, il est déjà monté. Je veux dire, il y a des sondages. Le sondage qui a eu lieu la semaine passée, qui est probablement le premier sondage vraiment compréhensif qu'on a pu avoir, c'est le New York Times puis l'Université de Siena qui ont décidé de faire un sondage. Puis c'est assez extraordinaire de voir ce sondage-là. Je veux dire, juste parler de Donald Trump, 97 de ceux qui ont voté pour lui en 2020 disent unanimement qu'ils vont continuer à voter pour lui. Tandis que Biden, lui, les gens qui ont voté pour lui en 2020 disent que ils doutent de son leadership et ils trouvent aussi qu'il est trop vieux. Puis il y a déjà jusqu'à 40% de la population, 47% des démocrates qui désapprouvent déjà de Biden et de sa présidence. Fait que vous voyez, ça ne va pas bien, vraiment va pas bien. Fait que on y est pris avec ça. Moi, je trouve ça, c'est vraiment malheureux pour la population américaine qui vit des difficultés énormes, énormes. Quand on dit que la classe moyenne est en train de se rétrécir, c'est pas des farces là, qu'on parle, là. C'est sérieux. Là. Il y a des gens qui sont plus capables de maintenir leur niveau de vie au niveau de la classe moyenne, donc ils baissent. Ils baissent où? Les couches inférieures de la classe moyenne, la classe ouvrière, ou tout simplement, ils perdent leur emploi. Ils sont plus capables d'en trouver non plus. Donc, tout ça fait que la population américaine a besoin de quelque chose tout à fait nouveau. Un débat, oui, un débat ouvert, avec des idées nouvelles, etc., etc. Et c'est ça qu'ils ont besoin. D'ailleurs, c'est ça qu'on les entend. On les en entend. Même les républicains avec Donald Trump disent ça. Parce qu'ils veulent aller vers quelque chose de tout à fait nouveau, renforcer l'économie américaine, etc., etc., etc. Mais là, est-ce qu'entre Biden et Trump, ça va être réalisé? J'ai bien hâte de voir, en tout cas, les débats.
Demain, il y a une étape cruciale qui va se passer. Des millions d'Américains qui vont être appelés aux urnes. On parle d'une quinzaine d'États, dont le Texas et la Californie, qui organisent simultanément leurs primaires. C'est quoi l'ampleur du Super Tuesday?
Bien, c'est pas tellement une grosse ampleur, parce qu'il faut pas oublier, pour les démocrates, hein, sur les 17 qui vont avoir des primaires, il y en a 1, 2, 3, il y en a 6, 16 qui vont être démocrates, puis c'est avec M. Biden qui est le candidat. Vous savez, hein, il n'y a personne d'autre qui se présente au sein du Parti démocrate. D'ailleurs, il y avait deux personnes qui étaient intéressées, là, 6 mois, de s'intégrer dans le Parti démocrate pour pouvoir être un peu une opposition à M. Biden. Les démocrates les ont mis de côté. Un, c'était Robert Kennedy Jr., de un, et deux, c'était l'autre, qui s'appelait Cornel West. Les deux voulaient se présenter comme membres du Parti démocrate avec la carte du Parti démocrate et tout ça. Bon. Les démocrates ont dit non, la place n'est pas pour vous, allez donc voir les indépendants, puis c'est ça qu'ils font d'ailleurs présentement. Donc, c'est ça. Fait que ça veut dire que M. Biden va sûrement gagner tous les primaires, c'est sûr. La question, c'est de voir le pourcentage qu'ils vont aller voter. Si la question va se poser, puis on l'a vu avec le Michigan, c'est clair, est-ce que la communauté arabe et palestinienne vont maintenir un vote assez élevé? Au Michigan, il n'y a pas eu de vote pour M. Biden, puis il faut pas oublier, en 2020, il y a jusqu'à 70% de cette communauté-là ont voté pour M. Joe Biden. Là, dans le primaire, ils n'ont même pas voté pour lui. Ils ont resté chez eux. Donc, c'est la même chose dans les autres États. S'il y a des communautés assez organisées et tout ça, on verra aussi que peut-être M. Biden va perdre ce vote-là, puis rendu à la présidentielle, qui sait. Donc, on est rendu là. Mais je dis, sur le côté des républicains, Donald Trump, c'est lui qui va tout gagner. Effectivement, il y a juste peut-être Mme Haley qui va se présenter en Caroline du Nord, elle va se présenter en Californie, puis tout le monde se pose la question. Que fait Mme Haley là, après toutes les pertes d'élections qu'elle a eues contre M. Trump?
Elle a gagné hier le district
de Colombie de Washington, franchement. Là, je veux dire, c'est comme voter avec tes voisins de côté, puis disons, vote donc pour moi, puis ça va t'arriver. C'est de la foutaise, tout ça. Ben, il faut le faire, il y a un primaire, oui, effectivement, mais même Trump s'en est même pas occupé. Lui, il s'occupe des autres. Et donc, effectivement, c'est fait que la question pour Mme Haley, c'est qu'est-ce qu'elle fait encore là? Fait que pour l'instant, là, c'est clair, c'est Biden d'un côté qui va gagner. La question, c'est de savoir par où le pourcentage va être élevé ou pas. Est-ce que les organisations qui soutiennent les mouvements palestiniens puis les mouvements à Gaza et tout ça, est-ce que ces gens-là vont rester chez eux puis ils voteront pas contre M. Joe Biden? Pourtant, ils ont voté pour lui, comme j'ai dit, au Michigan à 70% en 2020. Puis la question de M. Trump, mais à date, c'est lui qui gagne partout. Il gagne partout. Donc, c'est pas un Super Tuesday qu'on aurait aimé ça à voir si M. Biden avait utilisé, mettons, deux autres contre lui aux primaires, puis que M. Biden avait encore de Ron DeSantis ou les autres qui ont resté, je sais pas, Chris Christie ou tout ça. Mais tous ces gens-là se sont retirés, fait que M. Biden est tout seul.
Ouais. Pour ce qui est de Nikki Haley, est-ce que ce serait pour avoir plus de visibilité encore, peut-être pour ce qui va se passer dans quatre ans? Ça pourrait-tu être
moi,
sa stratégie?
Oui, c'est ça. Ouais. Exactement ouais. Ça. Je pense qu'elle choisit ses États. Vous avez marqué aussi, hein? Elle est allée en Caroline du Sud. Elle était deux fois gouverneure de la Caroline du Sud. Puis pourtant, elle n'a pas eu grand vote. Hein? Il y avait une distance entre 26 ou 27% entre elle et Donald Trump. Bon, là, elle se présente aussi en Caroline du Nord, parce que c'est juste à côté, c'est l'État voisinant. Donc, on va sûrement avoir quelques votes là. Mais non, ça va être encore Donald Trump. Puis elle va se présenter en Californie. Hein? La Californie est toujours... Il y a toutes sortes de monde en Californie. Fait qu'elle risque peut-être d'avoir un certain pourcentage pour elle aussi. Mais moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'elle prépare 2028, c'est clair. Puis elle se prépare déjà. Ça veut dire qu'une fois que les élections présidentielles sont finies, elle va commencer à construire. Si elle veut continuer dans ce sens-là, puis je le sens aussi, elle a 54 ans. Ça veut dire que si elle se présente en 2028, elle a 58 ans. Ça veut dire deux mandats, c'est bien faisable à ce moment-là.
Exact.
Puis c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans la politique américaine, quand même. Elle était quand même ambassadrice nommée par Donald Trump, entre autres, aux Nations Unies, hein, pendant quatre ans.
Oui.
Donc, fait que vous voyez, non, c'est possible. Mais moi, je la vois en 2028, si elle se présente, évidemment.
Qui pourrait être vice-président ou vice-présidente, advenant le cas où c'est une victoire de Trump?
Il y a bien du monde qui dit, ben, au tout début, hein, quand la campagne a commencé à prendre place dans les médias et tout ça, il y a bien du monde qui ont demandé la question, puis elle dit, j'aillerais pas ça. Elle dit, même si je me présente présentement comme candidate à la présidence, moi, s'il veut m'avoir comme colistière, moi, je travaillerais bien avec Donald Trump. Mais depuis ce temps-là, elle a attaqué M. Trump sans arrêt. Elle a appelé de tout ce que vous voulez entendre de lui. Allez-y. Fait que je ne sais pas si M. Trump dira oui, j'accepte, je t'accepte comme colistière. Je ne suis pas sûr, moi.
on termine avec ça, M. Cuccioletta. La Cour suprême du Colorado a déclaré que Trump était éligible à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que ça peut avoir un impact sur...
C'est changé, hein? Matin, le New York Times vient de sortir. La Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême a dit non, ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est illégal. Et ça veut dire que tout, il peut être sur tous les bulletins de vote dans les 50 États. Et évidemment aussi, des endroits comme l'American Samoa, puis des affaires de même. Absolument. Ils l'ont biffé. C'est fini. Puis ça veut dire que la Cour suprême, ils ont voté unanimement. Ça m'a surpris énormément. J'aurais pensé que peut-être trois démocrates auraient soutenu les deux démocrates au Colorado qui ont voté pour ça. Mais non, ils ont voté avec les six conservateurs. Fait qu'il y a eu une unanimité. Parce qu'il faut voir que tout ce qui se passe par rapport à Donald Trump va tout passer devant la Cour suprême. Il ne faut jamais oublier, lui, il a élu trois personnes à la Cour suprême, des conservateurs durs et purs. Là. Puis il y a déjà trois qui étaient là avant. Fait qu'ils sont six contre trois. Ça veut dire qu'il contrôle très bien la Cour suprême. Donc, ça veut dire la date. Si c'est la première victoire de M. Trump, il va en avoir d'autres sûrement.
Trump pourrait changer sa petite phrase là, pour motiver. Il pourrait dire « Inquiétez-vous pas, même avec des bâtons dans les roues, on peut avancer quand même. » Parce qu'il avance tout le temps, c'est incroyable.
Toutes les accusations contre lui, 91 accusations contre lui, puis quatre gros procès qui l'attendent. Il va chercher jusqu'à 75% des républicains.
Ça n'a pas de bon sens.
Imaginez-vous, là. Chaque fois que quelque chose lui arrive, le pourcentage augmente.
Est-ce qu'il va pouvoir se gracier en tant que président?
Est-ce qu'il peut, ça j'ai mal compris, là.
Est-ce qu'il va pouvoir se pardonner à lui-même en tant que président?
Oui, il a le droit. Il a le droit. Il a le droit s'il devient président des États-Unis.
Wow!
Puis si, effectivement, la Cour suprême n'a pas pris la décision sur le pardonnage, okay. Ça, c'est l'autre chose. Parce qu'ils peuvent, eux autres, ils peuvent retarder un an, deux ans, là, dans tout ça. Ils font pas ça du jour au lendemain, ces gens-là. Quand ça leur tente pas, ils font pas. Donc, ils peuvent autoproclamer, pardonner, oui, absolument.
Quand je vous écoute, M. Cuccioletta, là, je me rends compte à quel point la politique canadienne est plate.
Ben, quelque part, moi, j'ai un de mes collègues aux États-Unis avec qui j'ai enseigné 12 ans avec lui. Il me disait toujours, les États-Unis, des fois, on peut les haïr, on peut les aimer, mais maudit, ça brasse la cage. C'est intéressant. Il avait raison. Il dit, puis lui, c'est un Canadien qui a enseigné là-bas avec moi 12 ans. Ben, lui, il était là bien avant moi, mais on a enseigné ensemble 12 ans. Puis il dit, mais le Canada, il dit, franchement, là, et on regarde les nouvelles, puis on change de poste.
Oui, exact.
C'est pas comme ça. Puis c'est vrai, c'est un peu comme ça le Canada aussi, il faut le dire. Sauf pour le Québec, mes amis, sauf pour le Québec.
Ah, parce voilà.
Ça brasse au Québec.
Ah oui, ça brasse. Hein. Ah, oui. Monsieur Cuccioletta,
au moins on a le Québec.
C'est toujours un plaisir de vous jaser.
OK, plaisir. Au revoir.
Bye bye.
L'excellent Donald Cuccioletta, qui est un expert en politique américaine, qui est un ancien prof d'université à l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi membre de la chaire Raoul Dandurand. C'est-tu simple quand il te l'explique, la politique américaine?
Il est excellent. Lui?
Il est exceptionnel.
Mais c'est aussi décourageant parce qu'il suit tellement ça, puis de l'entendre
oui,
dire « je ne sais pas ce qui va arriver avec les États-Unis ». C'est extrêmement déplorable, là, la situation politique en ce moment dans le pays. Avec nous et à l'international.
Je sais pas. Moi, je me mets tout le temps à la place de ceux qui détestent Biden ou ceux qui détestent Trump. Ils doivent pas passer des beaux jours.
Mais les Américains, en général, ils disaient qu'il y a beaucoup de démocrates qui vont pas aller voter parce qu'ils veulent pas voter pour Biden. Ils restent démocrates, mais ils n'ont pas de solution. Puis ça va donner un vote supplémentaire et un poste supplémentaire à Trump.
En même temps, c'est des gens qui ont des valeurs fondamentales. Ils se disent, moi, je suis un démocrate. Non, techniquement, je voterais pour Biden, mais là, c'est pas mon candidat.
Exact.
Biden, c'est le film Weekend chez Bernie.
Mais imagine comment ça doit être déchirant.
Ils décident de pas voter.
Parce que là, tu veux pas encourager un Biden, mais tu es démocrate, mais sachant que tu ne vas pas voter, tu donnes un poste supplémentaire à Trump. Hey, imagine comment ça va, dans ta tête, ça se
Je sais pas. Chose sûre,
tu peux faire rire, oui.
Continuer. Ben moi, ça me fait rire. T'sais, moi, j'ai pas de... Moi, j'ai pas... T'sais, est-ce que je voterais pour Biden ou Trump? Je me pose sincèrement la question. T'sais, autant un est expéditif. Il a réalisé un mandat de 4 ans où il a pas été si pire. Il a dit des choses épouvantables, mais ce qu'il a fait concrètement sur le terrain, quand tu regardes les résultats, c'est pas si pire. Puis t'as un Biden qui est à moitié mort depuis 4 ans, qui veut être encore plus mort pendant 4 ans. Je veux dire, je regarde les deux, je me dis, ça n'a pas de bon sens.
De se gouverner par l'un ou par l'autre.
Qu'on soit rendu là. Ouais. C'est week-end chez Bernie Biden.
C'est catastrophique pour les États-Unis.
Puis sur Twitter, puis je vous invite à regarder sur Twitter là, les images de Joe Biden.
Ah oui.
C'est d'une tristesse. Là. Si vous pensez que vos parents sont maganés, là, regardez ces images-là, ça va vous rassurer. Là.
Il s'endort pendant les conférences de presse. Il a de la misère à descendre les marches.
Oui. Puis tu sais, quand il y a des petites pentes, là, mettons pour rentrer dans un restaurant, des fois pour les gens qui sont à mobilité réduite, il y a des petites pentes au lieu des marches, ben il faut qu'ils soient accompagnés pour descendre la pente. C'est le gars qui est supposé être l'homme le plus puissant du monde libre. Là. Bref, midi 21, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Pascal, ouvre les élections. Votre vote va à qui? 88-971-1021.
Oh.
Biden ou Trump? On revient.
Boulevard 102.1. Marceau le